Il est 9h. Le journal présenté par Agera Mohamed.
Bonjour. La nouvelle sortie d'Emmanuel Macron, la gauche ne me satisfait plus, c'est ce qu'il déclare dans une interview à la chaîne Arte. Le ministre de l'économie revient sur la création de son propre mouvement politique, de quoi agacer encore un peu plus les socialistes. Sécurité maximale à Jérusalem alors que les juifs célèbrent la Pessa, la Pâque juive. Les autorités craignent des nouvelles attaques, nous irons sur place avec Nicolas Roper. Barack Obama à Hanovre en Allemagne ce dimanche. Le président américain doit rencontrer la chancelière Angela Merkel pour parler entre autres affaires. Et puis la situation a-t-elle vraiment changé dans les usines textiles 3 ans après la catastrophe du Rana Plaza au Bangladesh qui avait fait plus de 1000 morts? Nous ferons le point avec Mélanie Barbotin. Il ne faudrait pas qu'Emmanuel Macron finisse comme Brutus. C'est Jean-Christophe Cambadélis qui ose la comparaison entre le ministre de l'économie et l'assassin de César. Dans une interview au journal du dimanche, le premier secrétaire du PS revient sur les dernières sorties d'Emmanuel Macron, qui lui aussi en remet une couche. Dans un entretien diffusé ce dimanche sur la chaîne d'Arte, le ministre avoue être déçu de la gauche d'aujourd'hui.
Le candidat de gauche ou de droite qui arrivera promis au deuxième du premier tour, qui aura vraisemblablement, si j'en crois les sondages aujourd'hui, affaire au Front National, dira « je dois reconstruire ». Et il ira chercher les bonnes volontés dans un rafistolage final. Ça, c'est insupportable pour les gens, parce que c'est ce qui renforce chaque jour le Front National, qui leur dit « vous voyez bien, ces gens-là vous mentent ». Moi, je ne mens pas aux gens. Je dis ce que je pense. Je le dis depuis le début. Moi, je suis de gauche, c'est mon histoire. Mais la gauche, aujourd'hui, ne me satisfait pas. Je veux pouvoir construire une action commune avec toutes les bonnes volontés qui croient à ce progressisme pour le pays.
Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, interviewé sur la chaîne Arte. Le deuxième tour des élections législatives partielles ce dimanche en Loire-Atlantique, dans la troisième circonscription pour désigner un successeur à Jean-Marc Ayrault, devenu ministre des Affaires étrangères. Au premier tour, la candidate socialiste Karine Daniel est arrivée en tête avec une légère avance à 30% des voix contre 23% pour son adversaire, les Républicains, Mathieu Hanreau. Scrutin marqué cependant par une très forte abstention dimanche dernier. Si les communistes appellent aujourd'hui leurs électeurs à voter PS, aucune consigne n'a été donnée du côté des Verts. Manuel Valls au musée du mémorial des martyrs et de la déportation. Aujourd'hui, le Premier ministre est attendu à 11h à l'occasion de la journée nationale du souvenir de ces victimes et des héros de la déportation. Des cérémonies se déroulent un peu partout en France, aussi comme à Clermont-Ferrand. Une journée porte ouverte est organisée là-bas, dans l'ancienne synagogue transformée en centre culturel. Une journée qui reste pourtant encore assez méconnue, regrette le rabbin de la ville et Managège.
Nous ne cessons pas de le répéter constamment, nous le répétons dans notre communauté, mais nous insistons vraiment sur ce passé pour pouvoir avancer. Malheureusement, je pense que la société ne connaît pas finalement cette journée suffisamment. Moi, je vois Clermont-Ferrand, on est une bonne centaine à cette cérémonie, mais je pense que toute la communauté de Clermont-Ferrand devrait venir à cette journée, puisque c'est vraiment un symbole très fort dans notre communauté, pas seulement juive, mais à l'ensemble de la société. Je pense que le problème, c'est qu'on essaie de montrer que la Shoah appartient aux Juifs, alors que ça fait partie de l'histoire du monde entier, je pense, de l'humanité entière. Et ça, je pense que la société ne le ressent pas suffisamment. Je pense que c'est vraiment à réussir à avoir un contact avec les gens qui ne viennent pas à ces manifestations, à ces journées. C'est cela qu'il faudrait aller les chercher. De quelle manière, je n'ai pas la solution, malheureusement. Et nous ne nous sentons pas suffisamment concernés, chacun de nous.
Eman Hagege, le rabbin de Clermont-Ferrand. Week-end de célébration à Jérusalem, on célèbre la Pessa, la Pâque juive, mais sous haute tension, les autorités israéliennes craignent des attaques, alors elles misent sur une sécurité maximale. Le reportage sur place de Nicolas Roper.
Alors que les violences se poursuivent depuis plus de 6 mois, les effectifs de police à Jérusalem ont été renforcés pour atteindre plus de 3500 hommes. Les forces de l'ordre israéliennes patrouilleront dans les lieux publics, les gares routières, mais surtout dans la vieille ville de Jérusalem. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a redit vouloir éviter des émeutes qui pourraient être provoquées par des extrémistes, comprendre autant par des juifs israéliens que des palestiniens. Pour les fêtes de la Pâque qui ont débuté vendredi, de nombreux juifs extrémistes se rendent sur l'esplanade des mosquées qu'ils considèrent comme être le mont du Temple. Les autorités israéliennes autorisent et encadrent cette pratique, même si elle est vécue comme une provocation par les fidèles musulmans. Toute prière des juifs sur ce lieu est cependant interdite. Ce vendredi, un groupe de 7 jeunes juifs israéliens a été arrêté. Selon la police, ils prévoyaient d'organiser un sacrifice rituel lors de leur visite ce week-end. Pour éviter des tensions supplémentaires, le gouvernement israélien a interdit à ses ministres ainsi qu'aux députés israéliens de monter sur l'esplanade des mosquées. Autre mesure sécuritaire, l'armée israélienne a décidé d'empêcher le passage des Palestiniens au checkpoint de Cisjordanie et de Gaza. Même si les attaques au couteau ont diminué depuis plusieurs semaines, les autorités israéliennes redoutent de nouvelles violences à l'occasion de cette fête, l'une des plus importantes du judaïsme.
À Barack Obama en Allemagne ce dimanche pour rencontrer la chancelière Angela Merkel. Réunion prévue à Hanovre où il sera question de politique, de la crise des réfugiés, mais aussi d'économie, d'affaires. D'ailleurs, le président américain doit inaugurer la foire d'Hanovre avec 220 000 professionnels présents. C'est le plus grand salon industriel au monde. Explication d'Héloïse de Neuville.
La foire d'Hanovre, il faut absolument en être. Et cette année, la France n'est pas en reste, avec 90 exposants sur place. Muriel Pénicaud est directrice de Business France, c'est l'agence qui organise la présence française au salon.
La foire de Hanovre, c'est le salon le plus grand sur le plan industriel. Donc s'y rencontrent des industriels de tous les pays, dans tous les secteurs. C'est un événement important pour observer la compétition, se comparer, rencontrer des partenaires, des influenceurs, et surtout de montrer collectivement une image qui est réelle mais qui n'est pas toujours perçue à l'international, qui est qu'il y a une transformation en ce moment profonde et accélérée de l'industrie française, qui est une transformation technologique et numérique. Et ça, c'est en le montrant ensemble qu'on va le faire percevoir.
Des transformations qu'il faut absolument montrer et mettre en valeur, c'est aussi le credo de Philippe Gustin. Il est haut fonctionnaire, spécialiste des relations économiques entre la France et l'Allemagne et il déplore depuis plusieurs années la perte de vitesse de l'industrie française.
Aujourd'hui, c'est particulièrement important aussi dans la relation franco-allemande que ce type de salon puisse essayer de promouvoir ce que la France et l'Allemagne font de bien en termes économiques. Vous savez que l'Allemagne reste le principal partenaire commercial de la France, mais la France, depuis le mois de décembre dernier, n'est plus le principal partenaire de l'Allemagne. Elle s'est fait ravir la place justement par les États-Unis. Donc ce n'est pas complètement anodin que l'on ait aujourd'hui les États-Unis comme hôte de marque de ce salon de Hanovre. Ça marque aussi un détachement du couple européen en termes d'intégration économique.
La foire d'Hanovre ouvrira ses portes au public à partir de demain jusqu'à vendredi prochain.
Et hier, plus de 30 000 personnes ont également manifesté à Hanovre contre le TAFTA défendu par Barack Obama, ce projet d'accord pour une zone de libre-échange commercial entre États-Unis et l'Union européenne. Certains parlent déjà d'un 21 avril à l'autrichienne. Le pays vote ce dimanche pour élire son président et pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale en Autriche, les deux partis de gauche et de la droite pourraient être éliminés dès le premier tour. À la place, l'extrême droite et les Verts pourraient s'imposer à Vienne, Blaise Gauquelin.
C'est un retournement qui est tout à fait spectaculaire dans un pays stable et riche au cœur de l'Europe comme l'Autriche. La société s'y est polarisée sur la question des migrants. Elle plébiscite l'extrême droite pour une partie d'entre elles et réclame une fermeture totale des frontières. Dans l'autre camp, on vote pour les Verts qui portent depuis l'été cette Willkommenskultur, la culture de l'accueil si chère à Angela Merkel, la chancelière allemande. Entre les deux, eh bien, il ne reste plus grand-chose. Les partis de la gauche et de la droite classique sortent absolument lessivés de leur gestion de cette crise. Ils gouvernent ensemble l'Autriche depuis 2008 et les Autrichiens affichent leur lassitude. Ils rejettent massivement les partis traditionnels. D'ailleurs, une ancienne juge qui s'est présentée sans étiquette dispute leur place au second tour à l'extrême droite et aux écologistes. Elle est partie sans la structure ni même l'argent d'une formation classique et elle a des chances de devenir présidente de l'Autriche. C'était encore absolument inenvisageable il y a un an seulement.
En Serbie, on vote aussi, mais pas de surprise, le parti du Premier ministre de centre-droit est favori pour remporter les législatives et les municipales. Aucun suspense non plus en Guinée équatoriale. L'actuel président Teodoro Obiang Nguema, au pouvoir depuis 1979, devrait être réélu face aux 6 autres candidats à la présidentielle. C'était il y a 3 ans, jour pour jour, la catastrophe du Rana Plaza. Cette usine textile du Bangladesh est effondrée sous le poids de ses ouvriers qui travaillaient pour des marques occidentales. Plus de 1000 morts. Au lendemain de ce drame, 170 multinationales s'étaient engagées à assurer la sécurité dans leurs usines. Mais qu'en est-il réellement aujourd'hui ? Réponse avec Mélanie Barbotin.
L'une des multinationales est française. Il s'agit de l'entreprise de grande distribution Auchan. 3 ans après le drame, elle est encore dans le collimateur de 3 ONG, dont Sherpa, qui luttent contre les crimes économiques. Une première plainte, classée sans suite. William Bourdon, son président, aussi avocat au barreau de Paris, a décidé de s'attaquer à un nouveau motif, une nouvelle plainte en cours d'instruction à Lille.
On peut leur renvoyer, comme un boomerang, ce délit qui s'appelle le délit de pratique commerciale trompeuse. Et c'est sur cette base-là qu'on a poursuivi Auchan, qui par ailleurs, sur son site internet, affirme être un des discounters éthiques les plus impeccables de la planète et qui importe toute une série de produits où il y a une culture de l'insécurité et du cynisme absolu s'agissant des travailleurs locaux.
Le groupe Auchan, lui, a toujours nié sa responsabilité. Il a aussi versé 1,5 million d'euros aux victimes du Rana Plaza et a signé un accord international sur la sécurité dans les usines. En France, 3 députés écologistes et socialistes ont fait une proposition de loi. Si elle est votée, elle permettrait de condamner les multinationales au même titre que leurs sous-traitants. Mais elle prend du retard et cela inquiète le député Dominique Potier à l'initiative de cette loi.
Il a fallu 1 an pour que l'examen entre les 2 assemblées se fasse. À ce rythme-là, nous allons en mourir, il y aura d'autres Rana Plaza, et surtout, nous nourrirons le sentiment d'une impuissance publique à changer les règles du jeu.
Au Bangladesh, les usines continuent à prospérer. Le pays est le 2e exportateur textile au monde, après la Chine.
La météo de votre dimanche est un temps plus frais avec des nuages au nord de 9 à 14 degrés en moyenne ce matin. Merci d'avoir écouté ce journal préparé avec Julien Loquet et réalisé par Lucas Vaillant.